Point Fâche. Alors, c'était comment Fâche avant?
Bonjour auditrices et auditeurs et bienvenue sur l'émission Raconte-moi Fâche. Pour ce troisième épisode, nous avons autour de la table Justine, Yousra, Louane, Madame Escudi ainsi que Madame Oudard de l'association culturelle et historique de Fâche Thuménil. Bonjour à vous toutes.
Bonjour.
Bonjour.
Alors sur ce troisième podcast de l'émission, nous allons parler des écoles et collèges de la ville de Fâche Thuménil. Comme d'habitude, nous avons la chance d'être en présence de l'association historique. Je vais laisser la parole à Justine.
Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire le nombre d'écoles ou collèges à Fâche Thuménil et les citer ?
Alors, voilà, il y a 20 écoles en tout, dont 2 collèges. Il y a donc, au niveau école maternelle, vous avez l'école La Fontaine, Florian, Pascal... Ensuite, Louise de Bettigny, Anatole France, ensuite, Lamartine, Daudet, La Bruyère, Anatole France et une école libre, Notre-Dame de la Treille.
Okay. Et est-ce que vous sauriez nous dire leur date de création ?
En 1570, une seule école à Fâche Thuménil. Qui était assuré par le pasteur de la commune. En 1794, on nous informe qu'il manque un instituteur pour la primaire. En 1790, lors de la Révolution française, sur Fâche Thuménil et Ronchin, une seule école. Le clerc Ignace Lefebvre continue à y enseigner. En 1796, nous retrouvons des écoles à Seclin, Ronchin, Vandeville, Fâche et Wattigny. En 1807, nous avons un instituteur particulier qui installe une primaire sur la commune de Fâche. En 1824, M. Deltaire est installé comme instituteur sur la commune. 1833, la loi Guyot autorise l'école de garçons obligatoire dans les communes de plus de 500 habitants. En 1841, l'interdiction pour le travail des enfants de moins de 8 ans. Donc, création des salles d'asile. En fait, c'est tous les enfants de maternelle et les premières classes de primaire, quand les parents travaillaient, on les met dans ces salles d'assises pour les occuper. Ce qui reprend un petit peu ce qu'on pourrait appeler les crèches aujourd'hui, mais ça va donc jusqu'à l'âge de 8 ans à l'époque. En 1842, nous avons sur la commune 380 enfants qui sont scolarisés.
Alors en 1844, l'instituteur n'a plus d'élèves. Ils sont tous scolarisés dans le privé. En 1850, la loi Fallou. Donc il doit y avoir une école de garçons dans toutes les communes et une école de filles si les communes en ont les moyens. Donc en 1856, on va créer une école de filles, rue Louis Braille. En 1858, une école à l'ancienne mairie. En 1870, Flore Douany est autorisée à créer une école primaire. Alors, une date importante, 1881. Jules Ferry institue l'école gratuite et obligatoire jusqu'à 13 ans. En 1881, les fameuses salles d'asile deviennent des écoles maternelles grâce à la première inspectrice d'école maternelle, Pauline Kergomar, dont une école porte le nom à Ronchin. En 1884, les salles d'asile sont gérées par les sœurs de Cluny, rue Carnot, près d'eux ici. Ensuite, en 1884, l'école Géminée de garçons est créée à la place du Plaid, Salbaron, l'actuel Salbaron, sur le terrain appartenant à Alexandre Planck. Et cette école va devenir l'école Zola. Elle sera mixte jusqu'en 1934. Les filles sont déplacées à Sévigné, l'école Sévigné qui a été rasée et qui a ouvert en 1955, plus la maternelle Charles Perrault. en 1893 l'école Victor Hugo à Tuménil sur les terrains confisqués aux hospices. En 1899, la fin de la neutralité religieuse des écoles.
En 1908, une chose importante apparaît sur la commune. C'est l'éclairage au gaz, parce qu'avant, nous n'étions éclairés qu'avec des lampes à huile ou des bougies. L'éclairage électrique n'apparaîtra qu'en 1932. C'est une petite chose importante à noter aussi dans la vie de la commune. Hein. En 1936, la loi sur la scolarité déplacera l'âge légal de la scolarité de 13 ans à 14 ans. C'est-à-dire que les enfants n'auront pas l'autorisation d'aller travailler avant d'avoir eu leurs 14 ans et leur certificat d'études. En 1940, lors de la Seconde Guerre mondiale, les écoles seront occupées par les Allemands et les classes... il y aura des cours qui seront alternés. Donc le matin, on fera classe aux garçons, l'après-midi aux filles ou inversement. Et ça se fera essentiellement dans la salle des mariages de la mairie ou dans certains estaminets sur la commune. Une école est aussi incendiée au départ de l'occupant. En 1951, l'école de la rue Louis Braille, donc, qui était l'école
Lamartine
sera déplacée sur le groupe scolaire qui se situe maintenant à l'angle de la rue de la Résistance et de la rue Ferrer. Parce que à la place de la rue Louis Braille où se trouvait l'école, on va créer cette rue pour faire avancer l'évolution d'un nouveau quartier. En 1955, ce sera l'école Sévigné avec la maternelle Perrault qui sera installée, avec l'extension de tout le quartier sur Fache, donc le quartier des Castors essentiellement, qui va s'amplifier sur le... Alors à l'époque, c'était pas encore les 5 bonniers, c'était les Castors pompiers, donc le quartier qui se situe à l'angle de la rue Fédère et de la rue l'avenue de Bordeaux, si vous voyez un peu. Ensuite, en 1955, on verra aussi arriver l'école Pasteur et Curie, donc la primeur Pasteur pour les garçons, Curie pour les filles, donc l'école qui est à côté de la mairie, avec l'extension de ce quartier-là. Vous avez tout le petit quartier qui est là où il y avait dans le temps le stade, qui vient s'installer, donc on a obligation d'amener un peu plus de classes. En 1965, ça sera l'école maternelle Florian, puis l'école Anatole France et la Bruyère qui seront des écoles mixtes. Puis viendra l'école Georges Sand, avenue de Bordeaux, avec l'extension du quartier des 5 bonniers. Nous aurons entre 1967 et 1970 l'arrivée des deux collèges, le collège Janzé sur Tuménil et le collège Mermoz sur les 5 bonniers. Nous aurons l'école maternelle Mozart qui viendra aussi s'ajouter. En 1972, les écoles Zola et Sévigné seront transférées sur l'école Louise de Bétigny. Donc les deux anciennes écoles qui étaient sur le quartier de Fache vont partir sur le quartier du Mont-de-Fache à Louise de Bétigny, ce qui est aujourd'hui Louise de Bétigny.
En 1973, donc la maternelle Pascal, où, je me permets, j'ai enseigné pendant 30 ans, et l'école primaire Kléber, à côté de la salle de sport Kléber. Ensuite, donc en 1975, une date importante, c'est le collège unique dont vous avez bénéficié. Et en 1976, la loi Abi oblige à la mixité. Les écoles n'étaient pas mixtes auparavant.
Est-ce que leurs noms comme Collège Janzé ou Mermoz ont une particularité par rapport à leur prénom ?
Alors non. D'accord. Alors l'école Jean Zé, le collège Jean Zé, par contre, c'est un hommage à Jean Zé qui a été un ministre du Front populaire, c'est-à-dire en 1936, et c'est lui qui a fait passer la loi comme quoi les enfants allaient en classe de 14 ans jusqu'à 14 ans. Avant, c'était 13 ans.
Et concernant l'école Mermoz, ben, comme tout le monde le sait, donc concernant le collège Mermoz, comme vous devez le savoir, Mermoz était un célèbre aviateur lors de la Première Guerre mondiale qui a fait beaucoup de choses. Donc c'était en hommage à lui aussi. D'autant que sur le quartier, on a aussi des noms de rues sur le quartier du Mont-de-Fache qui rappellent les différents conflits qu'on a eus pendant la Première Guerre mondiale.
Est-ce que l'un de ces établissements a déjà changé de nom ? Si oui, lesquels et comment il a déjà été appelé ?
Alors effectivement, nous avons des établissements qui ont changé de nom. On a par exemple Sévigné et Zola qui sont devenus Louise de Bétigny quand ils ont été regroupés sur l'école qui était donc sur le quartier du Mont-de-Fache. On a Florian Lamartine, qui ont été aussi modifiés quand on a déplacé les différentes écoles qui étaient préalablement sur ce quartier, pour n'en faire qu'une seule. En gros, il n'y a pas d'autres modifications.
Y a-t-il eu des changements majeurs au niveau des écoles et collèges durant les dernières décennies, en termes de travaux et de faits divers ?
Donc en 2006, l'école Pascal, donc, que je vous ai déjà dit auparavant, où j'avais enseigné, a brûlé entièrement. Et donc, elle a été reconstruite en 2009. Donc l'école actuelle, c'est une reconstruction. Nous avons eu également l'école 2D, malheureusement, qui a eu un effondrement au niveau du préau en octobre 2020. Et l'ancienne école Sévigné, où nous avons été élèves, Janine et moi-même, donc a été complètement rasée en 2009, parce qu'il y avait des gros problèmes de charpente.
Est-ce que vous pourriez raconter, pour les plus jeunes, comment c'était l'école avant à Fache-Tuménil ?
Alors, l'école à Fache-Tuménil, eh bien, déjà, on se rendait toujours à l'école à pied.
Oui.
Ça, c'était... Ça nous mettait entre 20 minutes et une demi-heure selon le lieu où nous habitions. Et l'hiver, nous avions la chance, la joie de nous rendre à l'école avec un mètre de neige. Quand on empruntait la rue Kléber, par exemple, à l'époque, il n'y avait pas de maison sur certains côtés de la rue, ce n'était que des champs. Donc, ils étaient un peu surélevés par rapport à la rue. Et l'hiver, on ne savait pas différencier la rue des champs, parce qu'il y avait un mètre de neige. Et on allait à l'école comme ça, et on était contente de nous rendre à l'école dans ces conditions-là. On ne se plaignait pas parce qu'il pleuvait ou autre chose. Et dans les classes, nous avions du chauffage au charbon. Nous avions un feu à charbon dans toutes les classes à l'époque.
Et les classes n'étaient pas mixtes. Il n'y avait la mixité qu'à partir du collège. Donc on était entre filles ou entre garçons. D'accord. Et on faisait le samedi après-midi des ouvrages de couture. On apprenait à coudre. Et il y avait une grande exposition à la fin d'année où on exposait les travaux de couture que nous avions faits. Donc on faisait de la broderie, on apprenait...
On apprenait aussi à tricoter, à langer un bébé. On avait des cours avec des poupées pour apprendre à mettre des couches en tissu au bébé.
Et à l'époque, moi je me souviens, en face de l'école Sévigné, il y avait une grande... C'était pas construit, donc il y avait une grande pâture et il y avait un cheval blanc. Et on allait le caresser. Ça faisait partie des distractions. Et effectivement, comme disait Janine, on faisait le chemin à pied. Moi, j'habitais tout au bout de la rue Henri Dilly, donc je faisais quatre fois l'aller-retour. Je comptais que ça faisait presque 5 km par jour.
Et nous n'avions pas de cantine à l'époque.
Donc, on revenait manger, et voilà. Et comme dit Janine, on faisait par n'importe quel temps.
Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Oui, profitez.
Alors, moi, je vais vous en poser une autre.
Ah.
Savez-vous de quand datent les vacances scolaires? Parce que là, nous sommes en période de vacances scolaires. Est-ce que vous avez une idée des vacances scolaires que nous avions avant?
Je sais pas, ça devait être 2 semaines peut-être. Non, je sais pas.
Alors, les vacances scolaires, avant, étaient essentiellement réglées sur le travail des agriculteurs et sur les fêtes laïques que nous avions à l'époque. Donc, on avait quelques jours à Noël, quelques jours, le week-end de Noël, le week-end de Pâques, des choses comme ça. C'était que le week-end. On avait 5 semaines de vacances qui démarraient. Alors, fin juillet. Alors, voilà. En 1912, les vacances scolaires sont avancées au 14 juillet et elles durent jusqu'au 1er octobre. En 1922, avec le manque de main-d'œuvre dans les champs, c'est ramené à 2 semaines de moins. De plus pour permettre d'aller travailler dans les champs, parce qu'à l'époque nous avions donné un coup de main aux agriculteurs pour ramasser les pommes de terre, pour faire les gerbes de blé qu'on mettait en silo, faire les betteraves aussi, parce que nous avions énormément de cultures sur la commune à cette époque-là. On avait des fermes, mais on avait aussi énormément de champs sur la commune. Donc, on allait donner un coup de main aux agriculteurs pour travailler dans les champs. Les vacances sont déplacées dans leur ensemble de 2 semaines. En 1959, elles commenceront le 1er juillet et finiront à la mi-septembre, parce qu'on n'avait que cette période-là à l'époque. On n'avait pas d'autres périodes. Les vacances en 1960 démarreront le 28 juillet et se termineront le 16 septembre. Et en 1972, nous commencerons à voir apparaître donc des vacances d'hiver. Et une chose aussi qui est importante, c'est de savoir que quand nous étions scolarisés, nous avions classe 5 jours sur 7. Nous allions en classe lundi, mardi, mercredi. Le jeudi, nous n'allions pas en classe, mais nous allions le vendredi et le samedi, toute la journée, 5 jours complets.
Et pourquoi pas le jeudi?
Parce que le jeudi était réservé pour aller au catéchisme. On était encore sur une période où le clergé était très important pour les habitants, donc... C'était le jour qui était réservé pour aller au cours de catéchisme, qui était tout compte fait comme le sont les cours d'enseignement général. C'était l'enseignement religieux qui était réservé pour le jeudi.
Et à quelle heure commencez-vous les cours en général?
Le matin, c'était 8h45, 9h moins le quart. Et le soir, c'était jusqu'à 16h45. Mais il y avait ce qu'on appelait l'étude, où c'était un moyen de faire les devoirs en plus.
Donc on avait...
Jusqu'à 6h à peu près.
On avait, oui, en gros, 1h30 d'études en supplément de l'école derrière.
Est-ce que vous avez encore d'autres questions?
Petite chose, est-ce que vous savez combien nous avons d'enfants scolarisés sur la totalité de la commune? À vue de nez, combien?
On va vous aider. Une école, c'est entre 100 et 150 élèves, à peu près.
Moi, je dirais 5 000 personnes.
On est à environ 2 000 élèves scolarisés. Et vous avez oublié de nous parler des collèges? Parce que vous devez être en collège quand même.
Oui.
Alors, à votre avis, combien il y a d'enfants scolarisés sur nos collèges, sur la commune? Vous donnez votre langue au chat?
Oui.
On a 850 élèves scolarisés sur la commune.
C'est tout.
En collège?
Dans les collèges. Pour information sur les lycées donc, qui sont proches de la commune et où vous irez après... Le lycée Gaston-Berger accueille 220 élèves en terminale et 1600 en BTS. Le lycée Féderbe accueille 1100 élèves. Le lycée Baggio en accueille près de 500. Le lycée Averroès, qui est donc le lycée musulman qui est à proximité où certains d'entre vous vont aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il fait quand même partie de l'Académie de Lille, accueille environ 800 élèves.
C'est pas mal.
C'est pas mal, voilà. Et je ne parle pas des établissements privés qui sont sur l'île ou la métropole.
Eh bien, merci beaucoup. C'est sur cette dernière question que l'on va conclure notre émission. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Quentin pour la régie.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.